petit pas du vent, le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons des insectes aujourd'hui dans ces pas du vent. Ils sont menacés par les produits chimiques de l'agriculture industrielle, par la pollution lumineuse, par les changements climatiques, par la disparition de leur habitat. Nous en avons parlé dans la première partie de l'émission. Nous avons aussi rappelé le rôle essentiel qu'ils jouent dans la santé des écosystèmes qui nous entourent. Mais il y a un aspect que nous n'avons pas encore évoqué, c'est la place qu'ils peuvent occuper dans notre alimentation. Avec nous pour en parler, l'entomologiste Philippe Le Gall, Alexandre Millière, rédacteur en chef du magazine Qu'est-ce qu'on fait, qui consacre son numéro du mois de mars aux insectes, et Samir Mesdour qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences des aliments et procédés agroalimentaires à AgroParisTech. Alors avant de vous donner la parole à tous les trois, je vous propose de nous mettre en appétit, ben oui, c'est bientôt l'heure du repas, en faisant un petit tour au marché total de Bakongo à Brazzaville. Nous y étions il y a quelques temps en compagnie du docteur Linga, chercheur en entomologie et en biologie des populations à la faculté des sciences de Brazzaville.
Nous sommes arrivés ici au marché total de Bakongo. Voilà, oui, donc nous allons nous diriger vers les femmes, on appelle ici couramment les mamans, qui vendent ces insectes comestibles, qui en fait malheureusement pour la plupart des Congolais coûtent relativement cher. Voilà, donc nous allons aller à gauche ici. Et voilà, donc là, voilà, ici vous avez les fameuses larves dont je vous ai parlé. Ça sont les larves qu'on appelle les nsombé.
Voilà. Donc c'est dans une bassine de violette et jaune, là il y a une dame qui vend des larves. Alors c'est des larves. Des espèces de verres qui font quoi
Ça fait combien? Voilà, donc, oui, donc là, ça coûte 100 francs.
L'unité. Ça coûte combien, madame?
100 francs.
100 francs. 100 francs la larve?
Oui.
Ouais, c'est cher quand même. Et donc, ce sont des larves qui font à peu près 2 à 3 cm de long,
oui,
et qui grouillent donc dans une bassine avec des petits morceaux de terre.
Voilà, effectivement, ce que vous voyez dans la bassine, c'est en fait un mélange de stipes, c'est-à-dire le cœur de palmier mélangé à un peu de tourbe, un peu de tourbe et puis un peu d'argile.
Et on les cuisine comment?
Bon, ces larves-là sont en général, c'est en fonction des départements, mais dans le poule par exemple, c'est cuisiné grillé, vous voyez, cuisiné grillé, et puis bon, certaines personnes en retirent le maximum d'huile parce que c'est très gras, et puis gardent le reste. Mais bon, certains les bouillissent également, et puis donc font, les mettent avec un peu de soupe. Donc c'est soit grillé, soit ébouillanté un peu, avec un tout petit peu de soupe.
Alors vous parliez d'éducation tout à l'heure, c'est vrai que moi spontanément, autant les huîtres, je peux faire un effort, autant là, je dois dire que je ne suis pas très tentée. Quoi.
Tout à fait. Mais c'est vrai aussi que, j'allais ajouter autre chose, c'est qu'il y a certaines populations qui les mangent directement.
Cru.
Wow. Tout à fait. Cru. Alors donc vous voyez qu'il faut être psychologiquement préparé. Quoi.
On va dire ça comme ça, voilà, c'est une question vraiment d'habitude. Voilà.
Le problème maintenant, un peu comme ça peut se passer en France, j'ai eu l'occasion de le voir là-bas, c'est la présentation de l'aliment. L'idéal serait pour les Congolais d'arriver à préparer correctement ces larves-là, donc les présenter dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce que les uns les autres soient attirés.
Oui, par exemple, au lieu de les présenter vivantes comme on les voit là, ça pourrait être séché en sachet.
Mais voilà, ouais, effectivement, il faudrait. C'est vrai que les mamans ont intérêt à ce que les uns les autres qui viennent pour en acheter constatent qu'elles sont vivantes, parce que des larves mortes ne se vendent pas. Alors voilà pourquoi elle a tout intérêt à montrer ces larves-là vivantes.
Et alors ça se mange accompagné avec quoi? Parce que là on est entouré de fruits,
de
légumes.
Voilà, en général c'est accompagné de manioc simplement, ou alors de foufou. Bon maintenant c'est vrai qu'en général on peut le manger un peu en guise d'entrée. Certains mangent en guise d'entrée, c'est-à-dire juste avant le plat de résistance, ils vont en manger. Ou alors d'autres vont encore le manger juste après le plat de résistance. Donc ça dépend simplement des coutumes, de la manière de faire qui est des fois familiale, quoi, typiquement familiale. C'est très variable, très variable. Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous mangez des insectes, vous, monsieur?
Oui, quelques insectes, par exemple les sauterelles. Je mange les sauterelles.
Vous les mangez comment?
On les cuisine comme ça. Parfois, on met dans de l'eau, sel, de l'huile, cela, et puis bon. On mange ça comme ça.
Et vous en mangez souvent? Vous aimez ça?
Si, surtout nous, notre ethnie là, la ribe, nous on mange un peu de tout là.
En tout cas, on se rend bien compte qu'il y a une vraie demande.
Oui, en fait, il y a une vraie demande, mais c'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est que les gens ne savent pas. exactement ce qu'il y a dans ces larves-là. Notamment la richesse, la valeur nutritive qu'elles contiennent. Mais je crois que beaucoup de gens se mettraient à en consommer un peu plus abondamment. Voilà. Donc je crois qu'il faut faire passer l'information de façon à ce que les uns les autres se rendent compte que ces larves-là sont effectivement très nutritives. Pas seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants, notamment en matière d'apport en calcium.
Voilà. En tout cas, sur RFI, c'est fait.
Voilà, ok, je suis très content. Merci beaucoup.
2 milliards et demi de personnes sont entomophages, c'est-à-dire qu'elles mangent des insectes tous les jours. Vous l'avez compris dans le reportage, ce n'est pas mon cas, mais enfin, c'est un peu normal, hein, Samir Mesdour, parce qu'en Europe, ce n'est pas tellement dans nos pratiques culinaires quand même.
Voilà, effectivement, il y a une pratique d'entomophagie en Europe, hein, qui, quand on remonte l'histoire de l'Europe, et plus récemment en Europe, au début du 19e siècle, en France, il y a un entomologiste, Jean-Henri Fabre, qui a édité un ouvrage avec des recettes à base d'insectes.
Donc on a oublié,
On a oublié, en fait. On a perdu cette tradition-là, cette habitude. L'entomophagie a existé en Europe et en France notamment.
Parce qu'ils sont une formidable source de protéines.
Alors, un des atouts, et l'atout principal, et qui nous intéresse, nous, en tout cas aujourd'hui, c'est sa richesse en protéines. Et ça peut s'élever jusqu'à 60-70% de la teneur en matière sèche. C'est une mine de protéines. Et on s'est dit qu'il était indispensable d'explorer cette source de protéines pour alimenter non seulement les hommes et les femmes d'ici à l'horizon 2050, mais également nos animaux de compagnie. Ils seront 2 milliards d'habitants, les chiens et chats, plus les animaux d'élevage qu'on a l'habitude d'élever pour notre alimentation.
Et alors, quels sont les insectes qui, je sais pas, ont le record en termes de protéines, ceux qu'il faudrait le plus consommer?
Alors, si vous voulez, il y a à peu près 2000 espèces d'insectes comestibles. Hein. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un million d'espèces différentes.
Connues, mais peut-être voilà, 4 mais ou 30 millions dans le
mais
monde.
Mais parmi le million, il y a 2000 espèces à peu près recensées qui sont comestibles. Et sur les 2000, il y a une dizaine d'espèces qui sont aujourd'hui davantage scrutées parce qu'on s'y intéresse pour les élever en masse, sans doute pour les transformer et en faire des dérivés ou des aliments potentiels.
Alors, par exemple
Le ver de farine, la mouche soldat, puis ensuite arrive le criquet, le grillon, donc le ver à soie revient aussi, puisque c'était un insecte qui était domestiqué par le passé.
Parce que vous en mangez?
Je suis pas... Non, je fais des progrès.
même vous avez quand même un petit frein culturel.
Effectivement, si vous voulez, ce qui m'intéresse dans l'insecte, c'est son constituant principal, la protéine. Alors, ça a du goût, hein, un insecte. Ça peut avoir le goût de noix, comme par exemple le ver de farine que je citais à l'instant. Il a un goût de noisette. Alors, parfois, quand on l'assaisonne bien avec un peu de sel, un peu de poivre, ça passe. Ou alors, ce que l'on fait... Pour des gens comme moi, on préfère l'insecte caché, si vous voulez. L'acceptabilité, sans doute, en Europe, du point de vue occidental, je pense qu'elle passe beaucoup mieux quand on transforme l'insecte en dérivé, notamment en poudre, en farine, et quand on l'intègre dans un assemblage, je pense que l'acceptabilité peut sans doute être beaucoup plus simple à faire passer.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est un problème finalement culturel. On peut comprendre que des populations qui, culturellement, n'ont pas été orientées pour ce genre d'aliments soient réticentes.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Dans le cas par exemple des mafundi, le goût se rapproche un peu des crevettes. Ça veut dire que si les uns et les autres font un effort, déjà de goûter pour voir ce que ça donne, je crois que certains seront emballés.
Voilà, il suffit de faire l'effort finalement, l'effort de goûter. Alors en Afrique, nous l'avons entendu, la consommation d'insectes fait davantage partie des habitudes alimentaires, mais elle reste limitée à cause des saisons. L'élevage d'insectes est donc en train de se développer, notamment au Cameroun, où notre correspondant Polycarpe Essomba a rencontré John Moifort. Il dirige l'ONG Living Forest Trust et il nous explique quels types d'insectes sont consommés au Cameroun.
Les insectes sont consommés par presque tout le peuple africain et notamment tout le peuple camerounais, parce que dans les différentes régions du Cameroun, les différentes espèces sont consommées. Si vous allez du côté du sud-ouest et du nord-ouest, vous avez des sauterelles, ce qu'on appelle comment en anglais le coast, qui sont consommés. Si vous allez de côté, dans la zone forestière, vous avez les chenilles et les larves des roquefort qui sont consommées. Si vous allez au nord, il y a des chenilles et il y a des sauterelles qui sont consommées. Donc, en bref, les insectes sont consommés dans presque toute la région du Cameroun, mais chaque région a une spécificité en termes des espèces qui est directement liée à la disponibilité de la ressource.
Alors, comment vous y prenez-vous dans le développement des fermes qui produisent des insectes?
Il faut dire que les insectes à eux-mêmes sont tellement riches en termes nutritionnels. Et cette richesse n'est pas largement capitalisée parce que la disponibilité des insectes est saisonnière. Pour que la population puisse les avoir à tout moment, il est donc important qu'on puisse mettre en place les techniques pour l'élevage. Et c'est dans cette contexte que nous avons commencé le travail depuis un certain temps, environ 4 ans déjà. Nous avons commencé le travail qui vise à mettre en place des techniques d'élevage d'un certain nombre d'espèces, notamment les larves des roquefort. Et nous envisageons dans la court terme de mettre en place aussi l'élevage des autres espèces, telles que le grillon ainsi que la baie de farine.
Alors, nous sommes ici dans un chantier, manifestement. Qu'est-ce que vous allez y faire précisément?
Ça, c'est une unité de transformation que nous sommes en train de mettre en place, vise à valoriser des insectes, c'est-à-dire de donner une valeur ajoutée à des insectes en les transformant d'abord en poudre des insectes pour la production des aliments pour la pisciculture.
Est-ce que l'élevage d'insectes est véritablement une alternative pour subvenir aux besoins en protéines des 9 milliards d'humains?
Il faut dire que les insectes constituent un alternatif important pour la nutrition humaine. Et les études ont montré que les insectes sont fortement riches en termes nutritionnels. Et ils sont moins chers. Et avec la mise en place de techniques d'élevage, la population pouvait les avoir à toute saison.
Quelles sont les conséquences sur l'écosystème pour ce qui quant à la production des insectes?
On ne peut pas dire que l'élevage des insectes n'a que les avantages sans inconvénients. Mais il faut dire que l'aspect positif de l'élevage des insectes est plus important que l'aspect négatif. Ceci parce que l'élevage des insectes demande moins de ressources, que ce soit en termes d'eau ou bien en termes de nourriture. L'élevage des insectes produit moins de CO2. Et le cycle de production elle-même est coûte pour la plupart des insectes par rapport aux d'autres espèces animales.
Pour vous, les insectes représentent quoi? C'est un peu l'avenir de l'humanité sur le plan alimentaire?
Je ne peux pas dire que les insectes, c'est l'avenir de l'humanité, mais les insectes font partie des ressources importantes que l'humanité doit valoriser pour améliorer sa condition de vie.
John Moifort, directeur exécutif de l'ONG Living Forest Trust, l'a interrogé par Polycarpe et Somba. Philippe Le Gall, vous êtes président d'honneur de Living Forest Trust. Donc l'élevage d'insectes serait un secteur économique plein d'avenir, en Afrique aussi?
Oui, l'Afrique a pris un petit peu de retard, en particulier par l'Asie. On rappelle le titre de journaux avec les usines d'insectes pour nourrir les Chinois. Mais il y a une telle consommation sur place et il y a de tels risques sur les ressources liés aux changements dont on parlait dans la première partie de l'émission qu'on se retrouve face à ce besoin important de développer l'élevage et de peut-être cette fois-ci l'Afrique, qui est un continent en énorme expansion, tant au niveau de sa population que de son économie. Il y a là un champ extraordinaire qui va se développer et on voit les projets d'élevage d'insectes se développer au Cameroun, où ça marche très fort, on voit le nombre de fermes augmenter. On a des élevages qui démarrent au Bénin, il y a des entreprises au Burkina Faso. On sent que les énergies sont en train de se mettre en place et que ça va devenir quelque chose d'important.
Samir Mesdour, c'est une bonne nouvelle ça, parce que les insectes sont quand même une sérieuse alternative à la consommation de viande, hein, qui émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, consomme beaucoup d'eau, prend beaucoup de place.
Oui, en effet, l'insecte est une source à explorer. La FAO promeut justement...
Donc la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation.
Promeut donc des travaux qui sont opérés, que ce soit dans les pays où il y a de l'entomophagie, mais également dans les pays où la FAO souhaite développer l'entomophagie à terme. Et donc, ce n'est pas, comme ça a été dit dans le reportage, hein, ce n'est pas la solution miracle ou principale, mais c'est une solution parmi d'autres, parmi notamment des sources végétales hein, qui sont un peu plus en avance. Il y a aussi des protéines dans d'autres systèmes.
Dans comme les céréales notamment.
Céréales, légumineuses, il y a aussi certains micro-organismes, les algues, etc. Donc il ne faut pas en faire, si vous voulez, la solution qui résoudrait toute la problématique alimentaire à terme, mais comme une véritable solution possible, ou alors une solution complémentaire.
Mais alors justement, depuis le rapport de la FAO en 2013, ça a comme, on va dire, déclenché un certain engouement, et même la législation européenne a évolué, la législation française aussi plus récemment, ce qui fait qu'on observe en Europe un vrai boom économique sur la commercialisation et l'élevage des insectes.
Il y a une dynamique depuis 4-5 ans, soutenue par notamment l'Europe, mais elle est soutenue par l'arrivée de nombreux entrepreneurs qui, en 4-5 ans, sont multipliés par 3 ou 4. On le voit notamment en France. Il y avait 5-6 start-up en 2014. Il y en a plus d'une vingtaine aujourd'hui.
Et à peu près 600 emplois créés, je crois.
Et tout à fait, oui. Plus de 600 emplois. Donc il y a vraiment un potentiel économique.
Mais alors du coup, parce que la législation, je disais, a évolué, mais aujourd'hui en France, par exemple, on ne peut pas vendre d'insectes sur le marché. Donc les entreprises ont, depuis le 1er janvier, le droit de proposer leurs produits, et s'ils sont acceptés, ils pourront les vendre. Donc c'est en pleine évolution. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons réellement ? Ces start-up dont vous parlez, elles font quoi ?
Le débouché principal qui est envisagé, celui donc de l'alimentation animale, et principalement l'aquaculture. Donc ça a été, ce débouché est autorisé depuis le 1er juillet 2017.
Donc au lieu d'aller prendre des petits poissons pour nourrir les poissons, on laisse les ressources dans la mer et on nourrit avec des farines d'insectes.
L'autre débouché à terme, je pense qu'il va finir par aboutir également, c'est l'alimentation de poulets. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. En ce qui concerne les débouchés en alimentation humaine, ce qui s'est un petit peu, par rapport au socle réglementaire qui était un petit peu rigide auparavant, depuis janvier 2018, grâce à la réforme de la procédure Nouvelle Food, il y a possibilité aujourd'hui, et c'est accessible du point de vue financier, en termes de timing, que le temps est un peu plus court maintenant, pour des start-up, de déposer des dossiers d'autorisation, de mise sur le marché, de dérivés d'insectes, à proposer pour l'alimentation humaine. Et donc on peut espérer dans un an et demi, deux ans, vers 2020, qu'il y ait un ou plusieurs autorisations possibles.
Aujourd'hui,
il n'y a pas d'autorisation de commercialisation, de consommation d'insectes en Europe.
Mais alors j'imagine qu'il faut un encadrement quand même assez strict, parce que si on observe des élevages d'insectes un peu partout, et vous imaginez des camions qui se renversent, des insectes qui sortent des élevages, on peut aboutir à des choses très complexes quand même.
Alors, c'est l'enjeu des projets de recherche collaboratifs public-privé qui ont été initiés depuis 4-5 ans, et notamment le nôtre, le programme Désirable, qui avait pour objectif de générer des données, des connaissances sur l'ensemble de la filière, à la fois sur les questions d'élevage, ça a été abordé tout à l'heure, de qu'est-ce que pourrait consommer l'insecte, des méthodes d'élevage, de domestication, puisque si on a su domestiquer un certain nombre d'animaux dans l'histoire de l'humanité, l'insecte, mis à part le ver à soie, on n'a pas d'expérience, d'expertise quant à des élevages à l'échelle industrielle. Et puis après, il y a de comment pourrait-on transformer l'insecte par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sa richesse en protéines notamment, pour le valoriser en aliments pour les animaux, et voire pour l'alimentation humaine.
Philippe Legal, je parle aux passionnés que vous êtes. Est-ce que les insectes souffrent? Si on se met comme ça à développer des élevages d'insectes, est-ce qu'il n'y a pas aussi risque de maltraitance, de pollution des écosystèmes, est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences importantes de développer les élevages d'insectes ?
Il est clair que les élevages ont cet avantage que les insectes ont tendance à vivre en groupes extrêmement denses et nombreux. Si vous mettez un cafard tout seul dans une boîte, il va mourir de dépression s'il n'est pas avec des dizaines ou des centaines de congénères.
Donc le cafard est capable de dépression.
Le cafard est capable de dépression. C'est un peu une image, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les insectes sont capables de vivre en groupe très serré, ce qui est un avantage pour l'éleveur par rapport à d'autres espèces animales, vous pouvez l'imaginer. Mon principal questionnement face aux éleveurs, et Samir le sait très bien, c'est de leur dire, écoutez, faites attention, conservons les insectes que l'on va produire, conservons les espèces d'origine du secteur où on élève. C'est-à-dire ne pas essayer de transporter comme ça d'un continent à l'autre des espèces dont on sait que la plupart peuvent être des prédateurs importants de nos cultures ou de nos denrées stockées.
Oui, ou devenir des espèces invasives.
Voilà. Des espèces invasives. Donc là, il y a vraiment, vous le voyez, on est à l'aube d'une nouvelle filière agroalimentaire, probablement. Et là, il y a besoin d'accompagnement académique et de l'accompagnement des institutions de recherche pour offrir ces outils de compréhension des insectes aux autres.
Alexandre Millet, dans votre magazine, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vous ne parlez pas de la souffrance des insectes, mais vous parlez, je sais pas, c'est pas la famille des insectes, les lombriques, c'est une autre famille.
C'est une autre famille.
C'est très loin, mais vous en parlez quand même dans votre magazine.
On a pris une définition assez large des insectes pour notre
pas
numéro.
Pas très scientifique, visiblement.
Pas très biologique ni scientifique, mais oui, on est allé dans l'une des dernières fermes lombricoles de France, qui est dans le Val d'Oise. Effectivement, dans les années 80, il y avait 450 fermes lombricoles qui subsistaient. Aujourd'hui, on a un peu moins d'une quinzaine. Et aujourd'hui, c'est une ferme qui élève des lombrics pour faire du lombricompost qui est utilisable en agriculture biologique. C'est un engrais qui retrouve des lettres de noblesse parce que justement, on est de plus en plus soucieux d'aller vers pratiques de jardinage naturel. Voilà.
Voilà, donc on défend les insectes dans cette émission et les lombrics qui sont bénéfiques aussi pour l'agriculteur.
Et les
araignées. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je ne vous promets pas de me faire un gratin de larves dans la journée, mais je vous promets que je vais y penser. Si vous voulez tout savoir sur les insectes comestibles, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission et sur le site de Qu'est-ce qu'on fait, qqf.fr. Une jolie infographie vous résume tout cela. Restez avec nous juste après une petite pause. Nous parlerons de la nouvelle campagne de l'ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières qui nous alerte sur l'alarmante disparition de la biodiversité agricole cette fois. Cette disparition qui met en danger la sécurité alimentaire, la qualité nutritionnelle de nos assiettes et la survie, là aussi, des petits paysans du Sud.
La didi, a 1, 2, 3. Eric the half a bee. A, B, C, D, E, F, G. Eric the half a bee. Is this a wretched demi-bee? Half asleep upon my knee. Some freak from a menagerie. No, it's Eric the half a bee. Fiddle-dee-dum, fiddle-dee-dee. Eric the half a bee.
The end.
Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Bonjour Katia Roche.
Bonjour.
Vous êtes chargée de programme agriculture et ressources naturelles chez AVSF, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, une association qui accompagne plus de 60 projets agricoles dans une vingtaine de pays et sur tous les continents. Et vous venez de lancer une campagne médiatique pour dénoncer l'alarmante disparition de la biodiversité agricole. Et c'est vrai que le constat est inquiétant.
Alors effectivement, une disparition de la biodiversité agricole qui touche à la fois nos assiettes à travers la diversité de variétés que l'on peut consommer. En 100 ans, ce sont 75% des variétés comestibles qui ont disparu. Par exemple, dans nos assiettes aujourd'hui, on retrouve plus que 7 variétés de tomates, alors qu'en 1900, c'était 30 variétés traditionnelles qui existaient. Pour le melon, avant, il existait au début du XXe siècle 73 variétés traditionnelles et actuellement, on en consomme plus qu'une seule. Donc c'est une disparition de la biodiversité agricole qui nous touche au niveau nutritionnel dans nos assiettes, ça touche aussi la sécurité alimentaire, comme vous l'avez dit, et la survie des petits paysans du Sud.
Et l'élevage n'est pas épargné non plus.
La biodiversité agricole, c'est la biodiversité végétale et la biodiversité animale. Donc moins on a de variétés animales et plus on peut avoir des problèmes, par exemple par rapport au changement climatique notamment. Et certaines variétés d'animaux qui sont importées par exemple en Afrique ne s'adaptent absolument pas aux conditions climatiques africaines et changeantes. Alors que chez Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, par exemple, on travaille depuis plusieurs années au Togo avec l'Institut Togolais de Recherche Agronomique sur des races de chèvres locales qui sont très bien adaptées aux conditions climatiques de l'Afrique tropicale et qui sont naturellement résistantes à la trypanosomiase, par exemple, qui est une maladie parasitaire transmise par la mouche tsetse.
Et vous dites qu'au cours des 10 dernières années, au moins une race domestique a disparu chaque mois et ses caractéristiques génétiques avec elle. Et donc cette perte de biodiversité, elle déséquilibre l'économie locale et elle accroît, hein, vous le disiez, la vulnérabilité des petits paysans pour de nombreuses raisons.
Absolument. Chez Agronomes Vétérinaires Sans Frontières, par exemple, on travaille beaucoup sur la diversification en fait, des cultures. La diversification des productions, elle permet d'utiliser moins de produits chimiques. Ces produits chimiques, vous savez que, enfin, vous en avez parlé, ils éliminent en fait des insectes qui sont nuisibles, oui, mais ils éliminent aussi des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs qui sont essentiels pour la reproduction des cultures. Et cette diversification, du coup, elle permet en fait de réguler de façon naturelle tous les agents pathogènes. Et chez Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, par exemple, on met en place des concours paysans au Guatemala qui permettent de stimuler cette diversification avec des résultats qui sont très positif à la fois sur l'alimentation des familles paysannes, puisqu'elles ont une diversité de produits dans leur assiette, une diversité nutritionnelle, et ça a des effets aussi très positifs sur les échanges entre paysans, donc bon, un côté un peu plus social.
Voilà pourquoi vous lancez cette campagne que l'on retrouve sur le site cultivonslabiodiversité.org, et il y a aussi une pétition que vous pouvez aller signer. Merci Katia Roche.
Merci.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre application Pure Radio ou sur le site de RFI, onglet émission. Demain, nous serons avec le biologiste Joël de Ronet qui viendra nous parler de son dernier livre, La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer notre vie. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.